Avoir château dans le Lot. Une visite et découverte des châteaux lotois présentés par Martine Dufour et Marie-Madeleine Rey.
Bonjour chers amis auditeurs, nous nous retrouvons au château de Lantis pour la troisième émission. Bonjour Françoise qui nous accueille très chaleureusement.
Bonjour chers amis, chers auditeurs.
Bonjour Marie-Madeleine.
Bonjour Martine, bonjour Françoise, bonjour à tous.
Ben écoutez, voilà, merci de votre accueil Françoise. Alors la semaine dernière, vous nous aviez expliqué tout l'historique du château, mais en même temps, l'historique à partir de 1992, quand vous êtes arrivée ici à Lantis et que vous avez acheté ce terrain, et cette découverte du château, après que vous ayez voulu construire une simple maison, finalement. Et à ce niveau-là, Françoise, est-ce que vous pourriez... je ne sais plus qu'est-ce que je voulais poser comme question. Non, on continue d'enregistrer, hein, mais ce n'est pas grave, hein, il n'y a pas de problème.
On recommence.
Non, on ne recommence pas. Oui. Donc, la semaine dernière, Françoise, vous nous expliquiez donc, tout cet historique. Est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs qui n'ont pas, peut-être pas écouté cette émission, nous reparler un petit peu de cette période à partir de 1992 pour replacer un petit peu le château et replacer un petit peu votre venue dans le Lot?
Eh bien, en 1993,
voilà,
nous cherchions un terrain pour passer des vacances agréables avec notre famille, puisque nous avons quatre enfants, et nous avons l'opportunité d'acheter ce terrain à des Gagnac, très très touffu, très arboré, avec une ruine de pigeonniers qui émergeait de la végétation. Avec l'idée ultérieure de construire à côté, jouxtant ce pigeonnier, une petite maison carcinoise qui nous abriterait pendant nos vacances et peut-être pendant notre retraite si nous plaisions dans la région. Alors les premières années, nous venons en vacances sans avoir l'idée de ce qui existe sous nos pieds, et puis au fur et à mesure nous allons dégager le jardin, couper les arbres tordus, effondrés, et envisager la construction de cette petite maison, donc à côté de la tour. Et là, la surprise va être de taille, puisque nous allons découvrir des murs, des cheminées, des dallages, des escaliers qui vont nous amener aux étages inférieurs. Et l'aventure n'est pas terminée, puisque dessous le rez-de-chaussée existe encore deux étages à dégager qui sont encore comblés par les gravats.
Oui, les étages de caves voûtées...
Non, ce ne sont pas des caves, ce sont des salles d'entraînement militaire.
Oula, oui.
Que nous sommes en train de dégager avec des voûtes qui datent du XVe siècle, qui sont encore en excellent état, et dessous, d'après les archives, existeraient des caves.
Oui, parce que vous, effectivement, vous expliquez sur la première émission que c'était un point stratégique. Et quand nous arrivons sur le château de Lantis, à partir de Gagnac, on aperçoit le château de Lantis en hauteur. Et effectivement, il y a un point de vue extraordinaire avec trois autres châteaux qui sont autour. Donc, quand vous dites que c'est plutôt des salles militaires, ou pour tout ce qui est militaire, ça paraît logique.
Bien sûr, puisque le château actuel, qui est un château en paix, a une vue à 360 degrés. Mmh. L'objectif, que ce soit au XVe ou au XVIIe siècle, était la stratégie militaire, de pouvoir voir de loin et pouvoir envoyer des signaux pour défendre la région. Puisque au XVe siècle, nous luttions contre les Anglais, les armées anglaises qui étaient stationnées sur Dôme et Sarlat. Et au XVIIe siècle, c'est une ligne de front qui lutte contre les protestants qui sont basés sur le Gourdonnais. Mmh. Alors, évidemment, on a trois autres châteaux autour de Lantis qui permettaient de prendre en tenaille les troupes qui arrivaient du Sarladais.
D'accord. Alors, Françoise, vous aviez dit aussi dans la dernière émission, la deuxième, eh ben, vous aviez changé de métier pour pouvoir, après le feu qui avait pris dans le château, ben, vous aviez dû changer de métier et vous mettre au clou et à la pierre pour pouvoir restaurer ce château.
Effectivement, le château, la toiture du château, à peine terminée en 2004, a subi l'épreuve du feu, non pas la guerre, mais une boule de feu lors d'un orage, un phénomène météorologique assez rare, mais qui a eu comme impact de mettre le feu à la tour, à la grande tour, et par voie de conséquence, comme il y avait du vent, c'est une grande partie du bâtiment qui va prendre feu et nous aurons le malheur d'avoir un bâtiment incendié qui va monopoliser toutes les casernes de sapeurs-pompiers du Lot pendant 3 jours puisque le feu sera éteint, mais avec le vent, le feu, l'incendie va reprendre, ainsi de suite, pendant 3 jours avant qu'il soit complètement éteint. Mmh. Ce qui nous laissera une ruine fumante et couverte de cendres, bien sûr, un gros problème pour la survie du bâtiment. Alors, en 2006, après quelques complications, comme tous les sinistrés, avec les assurances, on va pouvoir reprendre la restauration, le dégagement des parties brûlées et la reprise de la restauration. Et là, évidemment, la pierre du Lot est une pierre fragile et calcaire et qui brûle, qui calcine. Mmh. Et donc, pour commencer la restauration, il était nécessaire d'enlever 1 cm, voire 1,5 cm sur toutes les pierres brûlées au marteau et au burin. Mmh. C'est quelque chose d'assez facile, finalement. Et le chef de chantier va me proposer de venir aider. Ce qui changeait de mon métier de kinésithérapeute, mais c'était toujours un métier manuel finalement. Et à la suite de cela, des pierres avaient éclaté avec la chaleur, il fallait les changer. Donc progressivement, eh bien les compagnons vont m'apprendre à tailler la pierre, à replacer une pierre dans un mur, à faire les enduits à la chaux, et je vais pouvoir travailler sur le bâtiment en accord avec les autorités, avec les architectes des bâtiments de France. Et c'est grâce à ce changement de profession que le château va pouvoir avancer un peu plus vite avec 2 bras supplémentaires.
Oui, mais travail colossal.
C'est un travail important, évidemment, et j'y travaille encore. Et tous les jours.
C'était la question, effectivement. Actuellement, vous êtes toujours sur la restauration de ce château. On n'arrête pas, en fait.
Non, parce que le château, dans l'état actuel, a l'air complètement restauré. Mm-hmm. Mais c'est une erreur, puisque en dessous, il y a 2 étages encore à dégager, à restaurer. Mm-hmm. Et on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mmh. C'est un peu l'aventure, puisque dans les archives, il est question d'une crypte où seraient enterrés les seigneurs de Lantis, puisqu'on ne les a pas trouvés dans les cimetières aux alentours. Cette crypte qui donnerait accès à un tunnel qui allait au château de Vertillac, qui est le château qui dominait le village de Dégagnac. Donc, on a encore beaucoup de surprises à avoir. Et puis, bon, là, en ce moment, c'est l'isolation, quelque chose de moins épique que la taille de pierre. Mais cependant, comme le but est d'y habiter un peu plus confortablement, l'isolation. Donc il a fallu que j'apprenne le métier de plaquiste aussi.
Enfin, l'aventure continue.
L'aventure continue.
Oui, c'est fou parce que de votre profession de kiné, vous voyez d'autres professions manuelles et d'autres activités. Alors, Françoise, quand vous avez découvert ce château, vous n'avez pas découvert que le château, vous avez découvert également les dépendances.
Effectivement, mais on ne les a pas découvertes tout de suite, parce que la dépendance dans laquelle nous tenons aujourd'hui, qui était l'ancien four à pain et la forge du château, était recouvert de pierres, puisque le haut de la tour, de la petite tour, celle qu'on appelle la petite tour, était tombée dans cette maison. Donc ici aussi, il n'y avait pas de toit. Tout était en ruine. Et il a fallu dégager, quand on a décidé en 2000 de déménager et de venir habiter la ruine, il a fallu concevoir un endroit pour habiter.
Oui. Alors il faut peut-être préciser que là où nous sommes, c'est une sorte d'aile du château qui est perpendiculaire à la façade du château.
C'est une dépendance qui est perpendiculaire au château, où on trouve une salle où tout le village venait faire son pain, une autre salle qui était la forge, puisqu'il fallait ferrer les chevaux de l'armée, oui. Et puis aussi on ferrait les mules, on ferrait les ânes, puisque la région du Quercy est quand même assez rocailleuse, et il fallait avoir des animaux qui puissent aller sur les chemins escarpés. Et on a la métairie à côté.
Oui, donc c'était le four banal, c'est-à-dire qui servait à tout le village, et la forge aussi.
Voilà, le four banal, ça fait partie des banalités,
oui.
C'est-à-dire un impôt.
C'est ça.
C'était un impôt que chaque feu, chaque maison, chaque foyer, chaque famille devait s'acquitter au château. Alors, cette banalité, elle avait été, si je me souviens bien, éditée par Louis XI, je pense, à vérifier, parce qu'il y avait des fours dans les villages, mais les maisons de village, dans le Quercy, dans toute la France, c'était pas les maisons en pierre telles qu'on les voit maintenant, c'était des maisons en torchis, avec sur le toit, ou toit de chaume, on appelait ça des roselières. C'est pour ça qu'il y a plein de points d'eau avec des roseaux. On coupait les roseaux et on pratiquait les toits avec ces roseaux. Et il y avait énormément d'incendies. Et tous les villages brûlaient. Avec les villageois.
Et, oui.
Et donc, il y avait un édit royal qui avait imposé dans chaque château de construire un four à pain à l'écart du château, un four standardisé en pierre avec la sole en terre cuite, et chaque paysan était invité au début, à venir faire son pain en toute sécurité. Sauf que ceci s'est transformé en impôt. Et c'est devenu une banalité. Aussi, la forge était une banalité, puisque les paysans qui avaient la chance d'avoir un âne ou une mule pour travailler, ou un cheval de labour, étaient obligés de faire ferrer leurs chevaux à la forge du château. Ce qui, au début, parce que la forge, ça implique le feu aussi, c'était aussi par mesure de sécurité, et c'est devenu un impôt qui a persisté jusqu'à la Révolution française.
D'accord.
Alors, quand on a découvert le four à pain qui était sous les gravats aussi, donc une partie était abîmée et nous avons pu la restaurer par nous-mêmes, et on a eu la surprise, quand ça a été restauré, de voir arriver tous les papis-mamis avec des cannes, avec des vélos pour arriver à se traîner jusque sur la hauteur. Et qui nous ont posé la question, nous étions nouveaux dans la région,
oui.
Qui nous ont posé la question, est-ce qu'à la prochaine guerre, on pourra, tout le village et des Gagnac, venir faire notre pain dans votre four au château ? Et on a répondu oui avec un éclat de rire, parce que en 1996-98, on ne parlait pas de guerre nulle part. Et on a dit oui, bien sûr. Voilà.
Sans impôt.
Sans impôt, bien sûr, bien sûr.
Alors, ce four se trouve donc dans cette dépendance. Nous y sommes. Nous sommes dans. Alors, aujourd'hui, c'est une cuisine. Oui, ça, le café sent bon. Nous avons cette odeur de café que vous nous avez gentiment offert. Et nous sommes en face de ce four. Mais juste avant cette partie de la dépendance, aujourd'hui, vous y habitez. Mais à partir du printemps, vous n'y habitez plus en principe. Vous allez plutôt dans le château. Alors, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est un gîte? Est-ce que c'est voilà comment ça se définit pour vous?
Alors cette la reconstruction, la restauration du de cette petite maison était une nécessité puisqu'il fallait s'héberger avec nos quatre enfants puisque les hivers quand même dans le Lot sont assez froids. Et quand le toit du château et les fenêtres et les portes ont été posées, on s'est dit qu'il était peut-être bien. Au début, c'était pour héberger des amis. On a hébergé des amis bénévoles. Et on s'est dit, mais peut-être qu'on pourrait faire profiter à d'autres familles de cet hébergement en pleine campagne, dans un endroit serein, au milieu de la nature. Et tout naturellement, le gîte est devenu une maison que nous louons, que nous prêtons l'été à des amis ou des amis un peu plus loin, jusqu'au premier frima. Et à ce moment-là, nous allons habiter sous les toits, au château.
Et alors, ces amis que vous accueillez, ils vous aident à restaurer le château?
Alors, assez souvent, oui, ils nous aident. Il y a un partage du petit-déjeuner, et puis de quelques heures de travail, et puis partage de toutes les informations touristiques aussi, puisqu'on est dans une région absolument superbe, entre Cahors, Sarlat, Rocamadour. Et c'est un partage total au point de vue social, touristique, économique. Et c'est un grand plaisir pour nous.
Et donc dans cette dépendance, vous y êtes jusqu'au printemps. Donc nous sommes le printemps, vous n'y êtes pas encore dans le château.
Non, mais il faut dire que la semaine dernière, nous avions encore de la neige. Et que pour l'instant, la température, j'y suis allée ce matin, la température dans la cuisine du château, où je voulais vous recevoir, n'est que 8 degrés.
Effectivement.
Donc je me suis dit que voilà, Martine et Marie-Madeleine, vous auriez eu quelques frissons, même au coin du feu. Il fallait même, en rentrant dans la cheminée, il faut le bonnet et l'écharpe.
Ah oui, quand même, effectivement. Les gants, enfin,
voilà,
effectivement, ça aurait été un petit peu juste, on va dire. Mais nous avons la joie et le plaisir d'être dans cette cuisine que vous avez aménagée. Et nous sommes, comme je disais tout à l'heure, nous sommes en face de ce four à pain. Françoise, est-ce que vous pourriez nous le décrire pour nos auditeurs qui n'ont pas la chance de rentrer dans cette cuisine?
Alors, c'est un four dont nous n'avons pas réussi à dater encore. On ne sait pas s'il date du 16e ou plus tard. Il faut dire que au 15e siècle, le château actuel était beaucoup plus grand. Il y avait quatre côtés. Et le gîte, la forge et la métairie sont construits sur les ruines de l'ancien château du 15e siècle. Donc, sous ces bâtiments, on a des salles encore sur deux étages, certainement. Et donc, le gîte ne serait pas du 15e, mais peut-être du 17e ou du 16e. Personne n'a su nous le dater. Alors, c'est un grand four avec la sole, four avec un foyer important puisqu'il permettait à près de 1000 personnes de faire leur pain. Donc ils avaient le droit de faire leur pain une fois par semaine. C'était des grands pains qui étaient partagées dans les familles.
D'accord.
Et la saule est en parfait état.
Mmh. Alors, quand vous dites la saule, est-ce que pour nos auditeurs, vous pourriez dire ce que c'est ?
Alors, c'est le sol de ce four que l'on fait chauffer en trois étapes. Premier jour, on met un peu de journal, quelques brindilles, et on laisse crépiter pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et on laisse mourir le feu.
Mm-hmm.
Deuxième jour, le lendemain, on remet le petit bois et un peu plus de bois pour faire un feu qui dure à peu près une heure, de manière à chauffer
les parois du
four. Et le troisième jour, alors là, on peut y aller, on peut faire un feu d'enfer, et jusqu'à temps que la voûte devienne blanche. Et quand elle est blanche, ça veut dire qu'on peut préparer la pâte à pain et poser les pains à cuire.
Oui. Alors cette préparation permet aux pierres de se chauffer petit à petit et ne pas éclater.
Voilà, parce qu'un four à pain, on a restauré une partie du four à pain, donc on a bien vu comment c'était. En fait, on a une rangée de pierres qui sont mises en clé de voûte. Hein. Par-dessus, on a des gros galets, comme les galets de rivière, avec un enduit de chaux et de gravier. Le gravier qu'on trouve dans les rivières. Mm-hmm. Tous les matériaux sont à proximité, évidemment. Hein, il n'y avait pas de camion pour transporter des matériaux. Et par-dessus, on a des lauzes, des très grandes lauzes qui font 60 kilos, qui sont épaisses de 5 à 10 centimètres, et qui sont posées comme les fours, comme les toits en lauzes, comme tous ces bâtiments, et ça permet une isolation complète.
Mm-hmm. En écaille.
En écaille.
Voilà.
Voilà, exactement. Et le fait de chauffer sur 3 jours avec une température qui augmente progressivement permet non seulement à la sole, le sol du four, mais aussi à la voûte, aux galets. Les galets sont comme des briques dans les lits,
voilà.
Si vous voulez.
Oui.
Ça chauffe et ça garde la chaleur et ça permet ensuite de faire les rôtis, les tartes aux pommes, les petits pâtés, toutes ces excellentes...
Nous en avons l'eau à la bouche.
Toutes ces excellentes gastronomies qui ont un goût absolument inoubliable, absolument pas comparable avec un four électrique, par exemple.
Oui, alors donc actuellement, il y a une grille juste devant, mais on aperçoit la profondeur du four qui me paraît vraiment très grand.
Oui, puisque c'était un four conçu pour tout le village,
voilà,
le village de Lantis, qui était un village important quand des Gagnac n'étaient qu'à Hameau.
Oui.
C'est l'inverse qui s'est passé. Parce que le village de Lantis hébergeait un prieuré.
Oui.
Un prieuré, donc un lieu religieux, avec une trentaine de moines, ce qui était important. Et un prieuré était une rente. Et il y avait sur Lantis un grand marché aussi, des foires. Et le château de Lantis régentait tout cela. Alors que des Gagnac n'étaient au 15e ou 17e siècle qu'un tout petit village.
On sait combien d'âmes il y avait à Lantis ?
Plus de 1000.
Voilà.
Ah, c'était très prospère.
C'était très prospère. Et la prospérité a cessé en 1528, pendant les guerres de religion, puisque tous les moines ont été assassinés et le prieuré a été brûlé.
Mmh.
Et il n'en reste plus maintenant qu'un tumulus avec un calvaire au-dessus. Mais toutes les jolies maisons, les petites maisons autour, sont les anciennes maisons des moines, qui étaient des petites maisons avec une seule pièce au rez-de-chaussée et la chambre des moines à l'étage.
Oui, oui, oui. Et le prieuré lui-même n'avait pas de four ?
On ne sait pas. Tout a été démoli, tout a été brûlé.
Et actuellement, Françoise, est-ce que le four a servi depuis quelques années donc aux habitants de Lantis ou de Gagnac
Alors non, le four ne servait plus du tout puisqu'il était invisible.
Eh oui.
Il était sous les gravats.
Mm-hmm.
Donc... imaginez notre surprise venant, nous, d'une région du plat pays et découvrant un four à pain. Mm-hmm. On n'avait jamais vu de four à pain. Et ça a été une surprise très agréable et de comprendre que ce four pouvait être remis en question. Mm-hmm. Et on a, depuis l'année 2000-2004, effectivement, remis en valeur, en route ce four, et on y cuisine toute la cuisine.
Voilà, de très bons petits plats.
De très bons petits plats, et on se chauffe aussi, puisque la valoire est à l'intérieur. Mmh. Donc, ça n'est pas un four extérieur, c'est un four intérieur.
D'accord. Donc, nous nous trouvons dans cette pièce magnifique. Alors, il y a bien sûr ce four extraordinaire, mais nous sommes entourés de pierres. C'est une pièce où il n'y a que de la pierre, en fait.
Oui, parce que c'était anti-feu.
Mm-hmm.
Et oui, c'était anti-feu. Et il n'y avait pas de porte. C'était...
Oui, c'était vraiment fermé.
Non, il n'y avait pas de porte.
Yes. Oui.
On pouvait rentrer, faire son pain lorsque... On s'acquittait de la banalité.
Oui.
Et la porte que vous voyez qui communique avec la forge n'existait pas.
Oui,
Et on rentrait les chevaux à côté pour le ferrage.
Oui, c'était ouvert à tout vent sur l'extérieur.
Voilà, c'est ça.
Oui, parce que quand nous arrivons, nous passons la grille du château, nous traversons un très joli parc et nous passons devant le château pour venir dans ce gîte et l'entrée de ce gîte se trouve dans la forge, en fait, donne dans la forge.
Voilà, c'est cela.
Voilà, c'est ça. Oui. Et de la forge, nous passons directement dans cette maintenant cuisine, mais qui était à l'époque le four.
Oui, qui était le four et qui avait vocation à n'être qu'un four.
Mmh, oui. Mmh. Et donc, ouvert à tous les habitants.
Ouvert à tous les habitants qui venaient faire leur pain.
Oui, alors, quand ils voulaient.
Quand ils voulaient. Alors, bon, c'était une banalité sous l'Ancien Régime. Nous savons par les anciens que le four avait été remis en action pendant la guerre 40.
D'accord. Voilà.
Quand il n'y avait plus du tout de boulangerie dans la région, le four du château de Lantis, qui était un four de village, puisque le château n'existait plus, tous les anciens étaient venus faire leur pain ici.
D'où la question des anciens de maintenant, qui posaient la question de savoir si en cas de guerre, ils pourraient revenir faire leur pain.
Oui, ça a
été comme ça,
une rencontre curieuse où quand nous avons restauré le four à pain, on a vu arriver une dizaine de personnes vraiment handicapées, se tenant avec des béquilles, avec des vélos, et qui nous ont dit « Vous avez restauré le four à pain, c'est formidable. Mmh. Est-ce que vous nous autoriseriez, pendant la prochaine guerre, lors de la prochaine guerre, à venir faire le pain chez vous ?» Et on a répondu oui, bien sûr.
Parce que c'est ancré dans les mentalités.
C'est ancré dans la mentalité. C'est un four qui fonctionne très bien, de toute façon, qui peut...
On peut servir.
Ah oui, on peut faire, à mon avis, une cinquantaine de pains à la fois, à chaque fournée. Oui.
Alors, chers amis auditeurs, nous sommes obligés d'arrêter cette émission avec... dommage d'ailleurs, mais nous allons reprendre et vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre émission au château de Lantis. C'est trop bien, comme disent les enfants aujourd'hui. Nous y apprenons énormément de choses. Merci Françoise pour votre accueil, et donc dans cette pièce qui est absolument superbe et qui était donc le four à pain à l'époque du château. Merci Françoise pour cet accueil toujours aussi chaleureux.
Merci Martine, merci Marie-Madeleine.
Merci Marie-Madeleine.
Merci Martine, merci Françoise.
Et merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et donc à la semaine prochaine.
À très bientôt.
Pour d'autres explications tout aussi intéressantes.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir à tous.
C'était « À voir château dans le Lot », une visite et découverte des châteaux lotois présentés par Martine Dufour et Marie-Madeleine Reille.